Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui 20 ans et 1 millième de seconde, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Luciani, réalisée par Michel Sidorov. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur d'un fait divers, un meurtre différent et pourtant semblable à beaucoup d'autres. L'histoire que nous allons vous raconter est adaptée d'un article intitulé « La Bovary de Chambéry », article écrit par notre invité Pascal Robert Diard, chroniqueur judiciaire au journal Le Monde. Alors, pourquoi sommes-nous fascinés par les faits divers? Ils nous questionnent d'abord, et nous les questionnons. Du crime, en passant par l'enquête policière, les juges d'instruction, nous suivons ces histoires terriblement humaines comme des feuilletons qui, à chaque épisode, nous donnent à comprendre et nous révèlent la part d'ombre de nos sociétés. Vient ensuite, après l'enquête, le temps du procès, du jugement. Dans la présentation de son livre, Pascal Robert Diard écrit « Les palais de justice sont l'antichambre du désordre humain, le théâtre de l'extrême. Et dans ce théâtre-là, les récits de crimes, les dialogues, les habitudes, les coulisses, les personnages, accusés, juges, avocats, chroniqueurs, rien ne nous échappe. Aucun regard, aucune esquive, aucune ficelle. » Le procès est un autre temps du fait divers, non celui de l'emballement, des marches blanches, des reconstitutions et de l'enquête, mais il est le temps de la mise à plat des preuves, de la défense, du jugement. Les décors sont toujours les mêmes, ritualisés, le tribunal, la salle d'audience, les galeries des pas perdus. Le calendrier lui est connu, les horaires sont fixés, les témoignages sont annoncés. Et pourtant, il se passe toujours quelque chose dans ces lieux interdits aux caméras. Grâce à une parole, à une preuve, aux questions du juge ou d'un avocat, la vérité surgit. C'est de ces moments intenses dont nous parlerons avec notre invité Pascal Robert Diard, donc, car c'est son regard que nous interrogerons à travers son livre « Jour de crime », écrit avec Stéphane Durand-Soufflant, où l'on croise Yvan Colonna, Guy Georges, Michel Fourniret, les accusés de trop, ou les avocats Henri Leclerc, Georges Kesman, Éric Dupond-Moretti.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Vingt ans et un millième de seconde, de François Luciani. Une réalisation de Michel Sidorov.
Il y a eu un claquement sec. Et le sang a giclé sur le pare-brise. L'intérieur cuir du coupé Mercedes s'est coloré de rouge, et même mon chemisier blanc, un Sonia Riquiel que je portais ce soir-là en mémoire de nous, s'est moucheté de son sang. Les experts ont soutenu que la balle qui a traversé la tête de Lucas, mon amant, avait été tirée par derrière, ce qui est lâche et ne me ressemble pas. Si j'avais dû le tuer, je l'aurais fait de face, en lui disant droit dans les yeux ce que j'avais à lui dire. Lucas était assis à l'avant, à la place du mort. C'est Jean Massimi, un accro du tir sportif, qui conduisait. On avait une affaire importante à régler. Jean, c'est le meilleur ami de Charles, mon mari. Même devant les juges et les experts en balistique, il a toujours soutenu que c'est moi qui ai tiré. Mais je sais qu'il ment. J'étais assise à l'arrière et j'ai vu la tête de Lucas retomber violemment sur le tableau de bord. Le sang épais qui pissait par bouffées arrivait par un trou juste derrière l'oreille gauche et coulait sur le siège, côté chauffeur, comme un retour à l'envoyeur. Jean Massimi m'a regardé. Il avait l'air hagard. Il était couvert de sang. L'arme était près de lui. Alors qui a tiré? Lui? Ou moi?
C'est elle, c'est tout. Pas la peine de discuter. C'est elle qui a tiré, point barre. Elle a beau essayer de faire croire le contraire, me faire porter le chapeau devant les juges. Elle a ramassé le revolver sur le siège et elle a tiré, direct, à bout portant. C'est elle la meurtrière, pas moi. Il l'avait plaquée, elle l'a tuée, c'est aussi con que ça. Pourquoi je prendrais perpète à sa place?
Qu'elle finisse bien ou mal, il faut toujours un coupable dans une histoire d'amour. Je l'aimais, Louise, mais elle me mentait. Elle croyait que je n'y voyais que du feu. Alors elle a dû payer au prix fort. 20 ans. Pour 1 millième de seconde.
Tu fumes déjà, à cette heure-ci ?
La première, c'est la meilleure de la journée.
Tu avais promis de t'arrêter.
Moi ?
Oui, toi. C'est quoi ton programme aujourd'hui ?
J'hésite.
Entre quoi et quoi ?
Je ne sais pas. Changer l'eau des fleurs. Nourrir les poissons.
Tu ne devais pas déjeuner au country club pour la journée sida ?
Il n'y a que des vieux, c'est chiant.
Tu ne vas pas tout de même rester sur le canapé toute la journée ?
Peut-être.
Franchement, tu devrais sortir un peu, prendre l'air.
Tu as raison, j'irai faire un tour en ville dans l'après-midi.
Il faut que j'y aille. On s'appelle ?
D'accord, on s'appelle. Charles ?
Oui ?
Tu trouves que je vieillis ?
Mais non, voyons. Tu ne changes pas, tu le sais bien.
Je n'aurais jamais dû m'arrêter de travailler.
Tu regrettes à ce point-là ?
Peut-être un peu, oui.
Tu es libre ? Tu peux faire tout ce que tu veux. Que demander de plus ?
Je m'ennuie.
45 ans, 5 mois et 3 jours. C'était mon âge, ce matin-là. Je me suis mise nue devant le miroir en pied de la salle de bain et j'ai inspecté mon corps. La nuit avait fait son travail de sape. Quelques rides nouvelles s'étaient creusées autour de mes lèvres et de mes yeux. J'en ai suivi le trait du bout du doigt jusqu'à la pointe de mes seins qui, selon le miroir, restaient encore fermes, malgré la naissance de mes 2 enfants. J'ai aussi inspecté mes fesses, qui m'ont paru molles. Je me suis sentie grosse, moche, vieille. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose. C'est comme cela que j'ai rencontré Lucas.
Bonjour, est-ce que je peux vous aider ?
C'est-à-dire que... voilà, oui. Je voudrais... Comment vous dire ? Me raffermir. Voilà, c'est le mot, me raffermir. Et je me demandais si...
Abdo-fessier, c'est ça ?
Oui, on va dire ça comme ça. Abdo-fessier.
Inutile de vous sentir gênée, madame, vous savez, nous, on a l'habitude, on est là pour ça. Vous avez l'air en forme, non ? Vous faites combien, comme poids ?
Moi ? Je ne sais pas exactement. 58, je crois.
Montez sur la balance.
Avec les chaussures ?
Non, sans les chaussures. Ça fait 61 pour...
Pardon ?
La taille, combien ?
1m65.
Eh bien, c'est simple. Le poids idéal pour votre taille de 1m65, c'est... 57,5 kg. C'est le barème, regardez.
Ah.
À la pesée, vous faites 61. Ça vous fait donc 3,5 kg à perdre. C'est pas énorme.
Si on veut...
Je peux vous proposer un programme abdo-fessier, rythmique, cardio. Le forfait est à 350 € TTC pour 10 séances. Sans compter les UV, si vous souhaitez brunir un peu. Vous voulez bronzer aussi ?
Lucas, c'était tout le contraire de Charles. Il était grand. quelque chose comme 1m85, blond et mince. Il aimait la culture physique, plus que la culture tout court. Et avec lui, les conversations se limitaient au cinéma, les films américains, et au sport, surtout le rugby. Cela me suffisait. Dès le premier soir, j'étais dans son lit.
Oh. T'es encore pas mal, tu sais, pour ton âge.
Merci du compliment.
Pas de quoi.
Tes biscottos, c'est naturel.
3 heures de gainage par jour, tiens, touche. Tu les sens, mes abdos?
Oh, c'est pas si dur que ça.
Tu te moques de moi?
Je te taquine un peu, c'est tout. Ne le prends pas mal. Tu sais, toi et moi, c'est juste comme ça, en passant. Tu comprends? Rien à voir avec le grand amour.
C'était pas bon? T'as pas joui?
J'ai un peu honte.
Un peu? Ou beaucoup?
Devine.
3 mois avant le meurtre, elle a commencé à s'habiller de plus en plus court. Elle portait des talons hauts et sortait presque tous les soirs. J'ai d'abord cru à une dépression, la crise de la quarantaine, la peur de vieillir, que sais-je. Les enfants étaient grands, Marie faisait son Erasmus en Angleterre et Antoine une école d'ingénieur à Nantes. Alors le soir, à la maison, nous n'étions plus que 2, elle et moi. Mais j'ai vite compris qu'on était 3. Jour après jour, la question du respect de nous, notre amour, s'estompait pour ne plus devenir qu'un vague souvenir.
Comment tu trouves cette bagnole?
Pas mal.
V6, 260 chevaux, transmission intégrale, une vraie bombe. Je l'ai pour tout le week-end.
Je n'avais jamais roulé en cabriolet. On se sent libre avec ce vent.
Tu aimes?
Me sentir libre? Oui.
Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Avance!
Je ne voulais faire de mal à personne. Ni à Charles, ni à mes enfants. J'avais juste besoin de rêver un peu. Changer d'air. Respirer. Rester vivante. Lucas aimait faire des photos aussi. Des selfies, pour s'amuser. On faisait des mimiques débiles comme des enfants devant l'objectif. Et tout s'est compliqué quand l'argent s'est mis entre nous.
4 000?
Je sais, c'est une somme.
Je peux me débrouiller. Si ça peut t'aider à passer un moment difficile.
Merci, Louise.
Je n'aime pas quand tu me dis merci.
Alors, pas merci.
Dis-moi juste que tu m'aimes, encore une fois. Tu m'aimes?
Oui, bien sûr.
Tu m'aimes oui, tu m'aimes oui, bien sûr.
Tu veux boire quelque chose?
Pourquoi tu ne me réponds pas?
Bien sûr que je t'aime, voyons.
Tu peux le dire plus sincère? Recommence.
Oui, je t'aime.
Voilà, comme ça c'est mieux.
Bien sûr, Louise.
Le soir même, j'ai pris 4000 euros en espèces. À côté des billets, il y avait 2 armes de poing, des revolvers. Charles est un homme précis, très bon tireur. Il pratique le tir sportif tous les samedis au club de Saint-Agathe, avec Jean. Il est très soucieux de l'argent. Il compte tout, au centime près. Pour les 4000, je savais qu'il faudrait inventer quelque chose.
Tu m'entends?
Oui.
Véronique, tu te souviens?
Non.
Tu sais la coiffeuse, rue de Paris. Elle vient de divorcer.
Et alors?
Son mari l'a plaquée. Maintenant, elle est seule avec ses 3 gosses. Tu parles d'une vie, elle s'en sort plus.
Je t'avoue que je m'en fous un peu.
Pas sympa.
Je sais.
Elle n'a pas payé son loyer depuis 3 mois. Elle m'a demandé si je pouvais la dépanner de 4000. J'ai dit oui. C'est la moindre des choses d'aider son prochain, non?
À condition d'en avoir les moyens.
Nous deux, on peut tout de même faire ça, non?
Elle t'a signé un papier, quelque chose?
Non, rien. Je lui ai rien demandé. Je lui ai donné de l'espèce. Elle m'a promis qu'elle me rembourserait le mois prochain.
Elle a de la chance, Véronique, d'avoir des amis comme nous, tu ne trouves pas? Surtout moi, je ne la connais même pas. Véronique comment, déjà?
Sijac. Véronique Sijac. Elle est de Montpellier. Je te la présenterai. Tu verras, c'est vraiment une fille bien. C'est dégueulasse, les hommes qui vous plaquent comme ça pour une plus jeune, non?
Tu as raison, c'est vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse.
Mille, 2000, 3000, 4000.
Voilà. Le compte est bon.
Pas la peine d'étaler les billets comme ça sur le lit. J'ai l'impression d'être un professionnel tarifé.
Mais non, mon chéri.
Tu n'es pas vraiment une pute, rassure-toi.
Mais c'est vrai que tu pourrais y ressembler.
Pardon ?
Viens plus près.
Louise.
C'est qui cette blonde que tu embrassais hier midi en plein centre-ville ? Elle avait l'air d'une pouffe.
Une amie ?
Ça, je m'en doute.
On s'est jamais rien promis, toi et moi.
Pas de serment, c'est ça ?
Disons qu'on est libre.
Il a rangé les billets dans son portefeuille et il a mis sa veste pour partir. J'étais à moitié nue sur le lit. Il devait être à moi toute seule, pas question de partager. Même si je ne croyais pas en lui, c'était plus fort que tout, j'aurais fait n'importe quoi pour le garder.
Tu t'habilles pas? Tu vas pas rester toute nue tout de même?
Tu sais, si tu as besoin de plus, la combinaison du coffre c'est 15-02-99. Et les lettres c'est les initiales de mon fils. J'oublierai de fermer à clé? Tu n'auras qu'à entrer dans la maison et te servir.
T'es sérieuse?
Charles est très bien assuré. Il y a tellement de cambriolages ces temps-ci avec tous ces migrants. Il suffira de dire que nous avons été visités. Nous sommes des gens respectables et tout le monde nous croira.
Tu me prends pour qui, un braqueur? J'ai jamais rien volé à personne. Et c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé.
Tout de suite les grands mots. Braqueur. Mon chéri, voyons. Je sais bien que tu n'es pas un voleur.
Merci.
Il faut juste un petit peu de courage, parfois, pour surmonter les obstacles de la vie.
Non?
Et alors?
Moi, je dis que c'est dommage de laisser passer une si belle occasion. Je te donne un billet de loto gagnant et tu ne le prends même pas.
Il y aurait combien dans le coffre, d'après toi?
Ça dépend des jours. 5 000, 10 000, 50 000. Parfois plus, parfois moins.
Tant que ça?
Oui. Surtout le vendredi.
Tu crois que c'est jouable? Vraiment?
À une seule condition. Tu quittes cette blondasse.
J'ai cassé un carreau de la fenêtre du séjour et j'ai gratté la porte d'entrée avec un tournevis, histoire de faire croire à une effraction. Le soir même, comme tous les vendredis, nous sommes allés dîner au restaurant avec Charles, Jean Massimi et sa femme Clara. Clara m'a demandé ce que j'avais à la main. Je lui ai répondu que je m'étais blessée en épluchant des oignons. On a ri, car je n'étais pas tellement le genre à passer du temps à la cuisine. Et on est passé à autre chose. Jusqu'à ce que...
Dis-moi, Jean, qu'est-ce que tu ferais si ta femme te trompait?
Moi? Je la flingue. Direct.
Tu rigoles?
Elle et son putain de connard de gigolo. Je les descends, les deux. Pam et pam. 2 balles dans la tête. Et avec du gros calibre encore. On ne plaisante pas avec ça chez moi.
Tu déconnes?
J'en ai l'air. Pam et pam, je te dis, sans discuter.
Louise, tu crois qu'il déconne, Jean?
Pas vraiment.
T'as raison, je déconne.
Je vous ai fait peur?
Un peu quand même.
À ce point-là?
Oui.
Jean, c'était le fils de Martha Massimi, la femme de ménage. Petit, il jouait sur le tapis du salon pendant que sa mère faisait les poussières. Chez les Choiseul de Bricourt, on avait un certain respect pour les employés de maison. Alors fidèle à la bonne tradition, Charles avait tout fait pour aider Jean à s'en sortir. Jean ne pouvait rien lui refuser. Quand on est rentré avec lui et Clara, pour un dernier verre, la porte de la maison était ouverte. Le coffre était vide. Lucas était passé par là. Charles a aussitôt appelé la police.
L'officier de gendarmerie Randoni a notifié que le carreau du séjour avait été cassé de l'intérieur. Il a porté au procès-verbal qu'on pouvait raisonnablement déduire un vol de familier. Louise était très nerveuse. Je sentais qu'elle me craignait. Pourtant, il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Je voulais seulement tout entendre de sa propre voix, sentir sa honte, sa bassesse. Je voulais qu'elle me demande pardon, à genoux. Alors, elle m'a avoué ce que je savais depuis bien longtemps.
Il avait des photos de moi au lit avec lui. Tu comprends? Il menaçait de tout dire, tout balancer. Alors j'ai voulu te protéger, nous protéger, toi, nos enfants. J'ai cédé à son chantage et je lui ai donné la combinaison du coffre.
Tu croyais sincèrement qu'une telle connerie pourrait marcher? Tu prends les experts en assurance pour des débiles.
Je ne pensais à rien d'autre qu'à le fuir. Tout oublié, tout effacé. J'ai eu peur, Charles. Tu comprends?
Maintenant, il ne te reste plus qu'à récupérer l'argent.
Mais comment veux-tu?
Débrouille-toi.
Il n'acceptera jamais.
Tout dépend sur quel ton tu le lui demandes. Les photos, elles sont où?
Chez lui, dans son portable.
Tu vas chez lui, tu les récupères, ok?
Seul?
Tu ne veux tout de même pas que je t'accompagne?
Je t'irai pas.
Tu iras avec Jean. Lui, il saura se faire comprendre. Il parle la même langue.
Charles savait ce qu'il faisait.
Allô, Jean?
C'était oui. Comme s'il avait un coup d'avance dans une partie d'échecs engagée depuis bien longtemps entre nous.
Tu t'occuperas de lui.
D'accord.
Je voulais la punir. Lui faire payer sa crasse, effacer cette salissure. Dès qu'ils sont partis, je suis allé faire un tour au Rotary, histoire de me montrer.
Jean est venu me chercher avec son coupé Mercedes et on a pris la direction du club de gym. Il était 20h passées quand nous sommes arrivés. Il n'y avait plus personne dans la salle. Sauf lui.
Qu'est-ce que tu fais là?
Devine.
Et lui, c'est qui?
Devine.
Les photos, elles sont où?
Tiens. Et voilà.
Il m'a donné son portable. Il y avait de tout. Des filles de toutes sortes, plus ou moins nues. Je faisais partie du lot. J'ai arraché la puce.
Et l'argent?
Quel argent?
Tu vois, c'est simple. Tu rends l'argent, on oublie tout et on reste bons amis.
Tu ferais mieux de faire ce qu'il te dit, Lucas.
Il n'y avait rien dans le coffre, rien. Pour un centime, juste un flingue. Tu t'es foutu de moi, voilà.
Tu mens! Rends l'argent! Rends-le!
J'ai rien, je vous dis!
Le fric, tu l'as planqué chez toi, c'est ça? On n'a qu'à y aller faire un petit tour tous les trois, en amoureux.
Jean l'a poussé dans la voiture, à l'avant. On a roulé. Il a continué à nier, à dire qu'il n'avait pas volé l'argent. Il m'a traité de traînée et de toutes sortes de choses qui m'ont mise en colère. On s'est mis à crier dans la voiture. C'est Jean qui conduisait. Le revolver a glissé par terre. Je l'ai ramassé et je l'ai donné à Jean parce que c'était le sien.
Ce con de Lucas gueulait comme un âne. Il disait qu'il n'avait pas l'argent, que c'était Louise qui avait tout manigancé. J'avais envie de lui taper dessus tellement il m'agaçait pour le faire taire une bonne fois. Le revolver a glissé par terre. Elle l'a ramassé. Et puis, elle a pointé l'arme sur son crâne. Elle était folle de rage. Elle criait. Et elle a tiré sur lui à bout portant. Sa tête a explosé. Et puis, il y a eu un grand silence.
Mais qu'est-ce que tu as fait?
C'est pas moi, Jean! Oh,
Qu'est-ce qui t'a pris, Louise? Pourquoi tu l'as tué?
Mais c'est pas moi, je te dis!
Qu'est-ce qu'on va faire de lui, maintenant?
J'ai pris une couverture qui traînait dans le coffre, et j'ai couvert le corps de Lucas. J'ai fait demi-tour, et j'ai conduit calmement jusqu'à la maison. J'ai rentré la voiture dans le garage, et je suis allé chercher Charles, qui nous attendait dans le salon.
C'est pas possible, pas possible! Nom de Dieu, Jean, qui a fait ça?
C'est elle.
Je ne te crois pas.
C'est elle, je te dis.
Elle n'a jamais touché une arme de sa vie.
Pour moi, franchement, cela n'avait aucune importance. L'essentiel était qu'un point final fût enfin posé sur cette histoire sordide qui faisait honte à tout le monde.
On a roulé le corps de Lucas dans une couverture et on l'a mis dans le coffre de la Mercedes. Il m'a dit...
On va cramer tout ça du côté des Rouets à Marseille. Je connais un endroit, tout le monde croira à un règlement de compte de trafiquant.
Charles, tu es sûr? Tu sais ce que tu fais?
Je fais ça pour toi, Jean, pour t'éviter perpète, tu comprends?
Mais j'ai rien fait! Tu me crois au moins?
Bien sûr que je te crois. Mais les flics, eux, ce sera autre chose.
Mais je te dis que ce n'est pas moi!
Le revolver, il est où?
Là, dans la boîte à gants.
La douille, elle est où?
Elle doit être par terre, quelque part.
Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour sauver un ami?
Charles?
Tout s'est bien passé. Ne t'inquiète pas.
Tu es sûr?
J'ai fait ce qu'il fallait.
Des ouvriers de l'équipe du matin ont remarqué une épave qui se consumait au loin, du côté des Rouets, juste en face de l'usine. La police n'a eu aucun mal à retrouver la trace du propriétaire, un certain Jean Massimi, et la brigade scientifique a formellement identifié le corps de Lucas. Lors de son interrogatoire, Jean n'a rien dit à mon sujet. Il s'est contenté d'avouer que Louise lui avait demandé de l'accompagner chez Lucas ce soir-là pour récupérer l'argent. Qui avait tué Lucas Bailly? Moi? Impossible. J'étais au Rotary. Tout le monde m'y avait vu. Jean? Mais pourquoi? Alors, Louise, forcément. C'était elle, la femme adultère. Non?
Je n'avais aucune raison de tuer Lucas. Ni même de lui en vouloir. Je ne le connaissais même pas. Alors pourquoi m'accuser?
Depuis longtemps, je savais qu'elle me trompait et qu'elle me volait. Quand Lucas a ouvert le coffre-fort ce soir-là, il n'y avait rien. Rien d'autre qu'un revolver. J'avais pris mes précautions. J'avais remarqué le carreau cassé et les traces sur la porte d'entrée, mais je fais semblant de rien. Louise m'a dit « Ne t'inquiète pas, Charles, je fermerai. » Et nous sommes partis au restaurant en voiture. Juste avant de partir, j'avais pris l'argent, toutes les liasses, jusqu'au dernier centime. Ça faisait un bon paquet de fric dans les poches du costume. J'ai payé l'addition avec ça. J'ai laissé une arme dans la boîte à gants. Je savais que cela finirait mal, et je peux bien l'avouer maintenant, j'espérais bien qu'elle le tuerait.
Au procès, on ne m'a accordé aucune circonstance atténuante. J'ai été condamnée pour le meurtre de Lucas à 20 ans de réclusion criminelle et Jean à 8 ans pour complicité d'assassinat. On n'a jamais retrouvé l'arme qui a tué Lucas, ni l'argent. Entre-temps, Charles m'a quittée. J'ai lu dans la presse qu'il s'est remarié avec une jeune femme de bonne famille, de 20 ans plus jeune que moi.
Je n'ai rien à me reprocher, rien, ni moi, ni personne. D'ailleurs, je suis sorti libre au procès, libre, libre de tout recommencer.
Il y a là un mystère dans la justice des hommes. Qui, de celui qui arme ou de celui qui tire, est le véritable assassin? D'ailleurs, cela m'est égal. Les juges ont dit que c'était moi parce que j'avais toutes les raisons de le faire. C'est leur droit. Lucas, je pense à lui à chaque instant, chaque minute, chaque seconde. À nos escapades sur la corniche en cabriolet, mon chemisier blanc, un Sonia Riquel à 580 euros qu'il m'avait offert à Noël lors d'un voyage à Paris,
celui-là même qui s'est moucheté de son sang un soir où rien ne ressemblait à rien. Ce n'était pas vraiment de l'amour, mais cela aurait pu y ressembler. Je rêvais d'autre chose. De jeunesse perdue, de liberté. Quand je sortirai d'ici, j'aurai 65 ans, 5 mois et 3 jours. Ce sera mon âge. Il me restera encore un peu de temps à vivre, peut-être, pour oublier l'ennui.
C'était 20 ans et un millième de seconde de François Luciani, avec Sophie Bouilloux, Grégory Kidel, Sylvain Clément, Gérard Cherki. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Antoine Viossa, Éric Boisset. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Michel Sidoroff.
Affaires sensibles, la fiction.
Emmanuel Carrère, pourquoi s'intéresser aux faits divers?
C'est vraiment un des lieux de l'humain. Ça devient tragédie. Quelque chose que vous voyez, des enjeux humains deviennent de la tragédie. Et c'est fait pour être raconté. Ça appelle la narration. Et je me souviens, j'ai écrit un livre vraiment d'après un fait divers qui est L'Adversaire. Il y a dans ce recueil, il s'ouvre sur plusieurs chroniques judiciaires qui sont vraiment des... J'ai assisté à pas mal de procès d'assises, de choses comme ça. C'est une chose fascinante, un procès d'assises. C'est un théâtre extraordinaire. C'est aussi... Quand on écrit, c'est quelque chose de très particulier. D'une certaine manière, c'est comme... Moi, j'ai été aussi critique de cinéma autrefois. Mais il y a quelque chose d'un peu pareil. C'est-à-dire que tous les journalistes qui assistent à une audience, au fond, tout le monde assiste au même spectacle et ensuite, chacun le raconte différemment. C'est vraiment... Là, il y a quelque chose de très pur, d'une certaine manière, dans la narration. Et c'est... Non, j'ai des souvenirs très, très, très impressionnants d'assises. Maintenant, comment est-ce qu'on choisit? Je suis obligé d'être emphatique. Il y a un moment où on a l'impression qu'on est choisi par une histoire comme ça, qu'on est la personne à qui il incombe de la raconter. Et évidemment, on commence à se demander pourquoi.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui 20 ans et 1 millième de seconde. Notre invité, Pascal Robert Diard, journaliste, co-auteur avec Stéphane Durand-Soufflant, du livre intitulé « Jours de crime » aux éditions L'Iconoclaste. Bonjour Pascal Robert Diard.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde depuis 31 ans, vous avez été journaliste politique lors de la première partie de votre carrière, puis chronique judiciaire lors de la seconde. Alors, vous dites que l'envie de suivre et de raconter les procès, je dis bien les procès, on y reviendra, est née en 1997, lorsque, jeune stagiaire, vous accompagnez le chroniqueur judiciaire du Monde, Jean-Marc Théolaire, au procès Barbie, ça c'était en 87. Oui, absolument, à Lyon, j'y étais aussi.
Voilà. Absolument.
On s'est croisés sans se connaître peut-être. Alors, je dis bien procès parce que dans une histoire de polyjustice, je le disais lors de l'introduction, il y a le moment de l'histoire, de l'emballement, de l'émotion, et puis il y a le moment du procès. Et c'est très différent, même si ça peut se rencontrer, c'est très différent. C'est bien le moment du procès qui vous intéresse, vous, on est bien d'accord?
C'est uniquement,
et c'est uniquement
le moment du procès.
Pourquoi?
Parce que c'est un moment complètement différent, c'est un moment contradictoire. C'est un moment public. Et c'est un moment où tous les acteurs d'un drame, enfin les victimes et les accusés, sont réunis dans un endroit qui, face à tant de violence, face à tant de haine, est tout petit, qui s'appelle un prétoire. Et ce moment-là, cette violence qui va être au fond, enfin qui va être comme ça rapprochée, qui va devoir se confronter, qui va devoir entendre chaque mot, en même temps. Le pire, entendre pour un accusé la souffrance de la victime, entendre pour la victime la souffrance possible de l'accusé, celle de son enfance, de son adolescence, etc. Tout ça va être dit en même temps et va être entendu par tout le monde. Et de cette confrontation va naître à un moment donné quelque chose qui nous intéresse tous, qui est un verdict, qui est à quoi condamne-t-on telle personne, c'est-à-dire quelle est la valeur qu'une société accorde à tel crime. Ça, c'est beau. Je vais presque vous faire un aveu, mais le fait divers, paradoxalement, ne m'intéresse pas tant que ça. Mm-hmm. C'est la transformation du fait divers en œuvre de justice à un moment donné, c'est-à-dire en procès, en confrontation,
c'est ça qui vous
là,
intéresse.
Je trouve que c'est vraiment très, très passionnant.
Alors, quels sont vos souvenirs les plus forts de prétoire? Mis à part, évidemment, le procès Barbie, parce que ceux qui, comme vous et comme moi, ont eu la chance historique d'y assister, évidemment, ce moment incroyable où on l'attend, où il va arriver, incarnation d'une horreur, incarnation humaine d'une idée d'horreur, c'était quelque chose de très fort. Bon, mais les autres procès, parmi les autres.
Parmi les autres, j'ai beaucoup de mal à choisir quand on me pose cette question, parce qu'en fait, je me souviens plus de moments particuliers dans beaucoup de procès. C'est-à-dire que je pourrais plus
allons
facilement...
Sur ce terrain-là.
Moi, ce que je trouve absolument bouleversant, c'est le moment où je vois, au procès par exemple de Bertrand Cantat à Vilnius, où je vois la mère de Bertrand Cantat inspecter un sac en plastique dans lequel un de ses musiciens a mis à apporter ses gâteaux, et lui dire « Oh, tu as pris cela, ce sont ses préférés ». Il va être heureux, comme si elle parlait d'un gamin de 5 ans à qui elle donne son 4 heures. Ce moment-là me plaît plus. Ce qui me plaît infiniment, je parle encore des mères, parce que les mères dans les procès sont quand même très très importantes, c'est de voir le moment où une mère entre dans un prétoire pour témoigner, et où son fils va littéralement s'affaisser dans le box, parce qu'en général il a honte d'être vu à cet endroit-là par sa mère. C'est l'histoire d'un père qui doit venir témoigner contre un fils accusé, et qui va vouloir bien faire, et qui, dans les mots qu'il va employer, va malgré lui employer l'imparfait, et qu'à ce moment-là on va comprendre qu'en fait évidemment quelque chose dans ce père s'est brisé depuis que son fils est accusé. Ces moments-là sont merveilleux, donc ce sont des moments que je préfère plus que des affaires.
Est-ce que vous êtes en résonance avec ce que disait Emmanuel Carrère, qu'on a entendu tout à l'heure, et qui a consacré un livre à l'affaire roman, et même plus au personnage roman d'ailleurs?
Complètement. Je pense que d'abord, il a magnifié dans l'adversaire tout ce que peut susciter un procès d'assises. Il a commencé par suivre l'affaire Roman. D'ailleurs, Emmanuel Carrère, je me souviens d'avoir lu de lui dans son dernier livre, il est avantageux d'avoir un endroit où aller, des comptes rendus d'audience qu'il a écrit dans les années 90 qui sont de toute beauté. C'est vraiment saisissant. Il a vraiment, il raconte le procès comme... C'est formidable.
Avec une dimension littéraire. Puisque je parle de dimension littéraire, je voudrais lire les quelques lignes de votre prologue. Vous écrivez « Pendant quelques jours, parfois plusieurs semaines, rien d'autre ne compte. L'univers tout entier se condense entre les quatre murs d'une cour d'assises. Dedans, on se saoule de mots et de visages, des hommes, des femmes dont nous ignorions tout, nous deviennent familiers. On apprend où ils sont nés, comment ils ont grandi, qui ils ont aimé, comment ils ont été aimés ou mal aimés. On voit leur mère, vous en parliez tout à l'heure, leur père, leurs frères et sœurs, leurs voisins, leur employeur, leur instituteur, leur meilleur ami, leur pire ennemi. Rien d'eux ne nous est épargné, surtout ce qu'ils voudraient cacher. » Il n'y a pas une part non plus d'intrusion dans l'intimité qui est terrible aussi, y compris pour les auditeurs de justice. Bien sûr.
En fait, ce qui est terrible et ce qui peut être vite épouvantable dans une cour d'assises, si le président, notamment, ou la présidente sont des gens maladroits, indélicats, disons. C'est que évidemment, une cour d'assises, ce qui la qualifie, en dehors même de la violence, de ce qui s'y dit et de ce qui s'y noue, c'est son obscénité. On viole l'intimité, parce que pour comprendre un homme, il faut savoir. Bon, et simplement, il y a parfois le processus lui-même criminel fait que on veut, comme on doit juger un homme, à la fois pour l'acte qu'il a commis en fonction de la personnalité qui est la sienne, on remonte donc dans l'histoire de sa personnalité. Et donc, on va aller très très loin. Et c'est vrai que vous allez avoir des moments, certains procès, où on va reprocher à un homme, par exemple, qui est accusé de meurtre, d'avoir regardé sous les jupes de sa sœur ou d'avoir volé des bonbons quand il avait 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, le crime va éclairer entièrement sa vie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le crime agit comme un phare et que dans la lueur de ce phare, on va revoir toute la vie d'un homme ou d'une femme qui est accusée. Et avec parfois une nécessité, c'est-à-dire que remonter dans son enfance, remonter dans son adolescence, savoir qui il a aimé, comment il a été... aimer ou mal aimer, c'est important. Mais parfois, on va appuyer sur des détails qui sont obscènes. On va savoir à quel âge il a arrêté de pisser au lit. Ouais. C'est terrifiant, ça.
Et vous dites, nous, chroniqueurs judiciaires, nous sommes des ripailleurs d'humanité. Très jolie phrase qui résume tout ce que vous venez de dire. On va se retrouver dans 3 minutes, Pascal Robert Diard, et on continuera à parler de ces procès, de la fascination légitime que peut exercer un procès sur nous tous.
Sometimes I wouldn't mind if I was less important. Would you think about them all the time? Wonder if you'll even notice in the morning. So where'd you go when you can't get to me and you just can't control? Sometimes I wouldn't mind if I was less important. But I've got you to let me down. I've got you to let me down. Only you can understand why I've got you.
Slap. You've got me, I ponder on that. Said I'll be back in a sec, I need to reflect. But you swear it's been longer than that. Time is gold and time is thin, but time is rare, so we squander on that. I feel your pain when I hear your voice. So fix your tone and it's stronger than that. And you're like the strongest girl I know. Probably the strongest man, it's my mum. Don't go wasting your loving on me. When I see tears on, I'm likely to run. So girl, don't love me, I mean it. When I say I love you, I mean it. And it's my car, choose to be distant. But as fuck, I know what a queen is. So why do I...
you to let me down?
Why do you let me down? Why do you let me down?
I've got you to let me down.
Sometimes your world spins round, but you never had a king to now.
Only you can understand.
Pascal Robert Diard, quand on parle de faits divers, on parle de fascination perverse, de voyeurisme, de sadisme ou de masochisme. Les films, les séries, les polars et la plupart des médias s'en sont emparés, et ce depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, à leur tour, suivent en direct les évolutions d'une affaire parce que le crime est vendeur. Ivan Jablonka, historien et auteur du livre Laetitia ou La fin de l'homme, réfute toute fascination personnelle et revendique comme objet d'étude sociale. Alors, il analyse le succès de son livre en disant « Le fait divers, c'est quelque chose qui permet de comprendre nos vies. C'est un miroir qui envoie des reflets dans tous les sens. » Alors, pour la psychanalyste Saverio Tomasella, le moyen de mettre le cauchemar en dehors de soi, c'est ça le fait divers. C'est-à-dire qu'on le met à distance de nous. Et, dit-elle, c'est un questionnement fondamental sur le mal. Vous êtes d'accord avec ces analyses différentes ?
Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le fait divers nous permet de regarder avec effroi, avec intérêt, avec curiosité, ceux qui sont allés un peu plus loin que nous. Mmh. Voilà. Ceux qui ont franchi la ligne, comme dirait Simenon. C'est-à-dire que nous, on est très près de la ligne dans nos vies. Je pense que chacun d'entre nous peut vivre des moments de colère, de violence, de jalousie. Enfin, tous ces sentiments qui peuvent donner lieu au pire. Simplement, quelque chose nous retient, qui n'a pas retenu celui ou celle que l'on regarde. Et effectivement, on le regarde comme et si ? Tiens, lui, il l'a fait. Lui, il a franchi la ligne. Donc, il est là à la fois pour nous montrer la distance qui nous sépare, parce que quelque chose de fondamental nous sépare à un moment donné, quelque chose de fondamental nous sépare de celui qui a commis un crime. C'est clair, bien on n'est pas du même côté. Et le box, pour revenir au rituel, ce que disait Carrère, la cour d'assises, les tribunaux sont hyper ritualisés, les places sont attribuées, les places sont très très
les
importantes,
tenues vestimentaires,
symboliques.
Et
encore, nous, on n'a pas à l'américaine, les détenus ne comparaissent pas dans une espèce de combinaison, mais le box est évidemment très symbolique, toutes les places sont symboliques.
Non, quand je parlais de tenues vestimentaires, celle du président de la cour,
la solennité de la robe.
Ça nous renvoie au théâtre de Carrère.
Évidemment, évidemment. Et donc, il est à la fois très loin, parce qu'il, lui, a franchi la ligne, et en même temps, quand on va le juger, on va s'approcher, on va être juste au bord, et on va se dire, ah ben finalement, j'étais peut-être pas si loin.
Alors, je reviens sur le fait divers, avant qu'on reparle de procès de prétoire, Pierre Bourdieu, le sociologue, disait, le fait divers fait diversion. C'est-à-dire qu'il détourne le citoyen de ses préoccupations qui devraient être les premières, c'est-à-dire préoccupations politiques, économiques, sociales, culturelles, on lui raconte des histoires, ça le divertit. Est-ce que le fait divers fait diversion pour vous ?
Ah, pour moi non, pour moi au contraire, il nous met au cœur de la société, je pense que... il nous met d'abord au cœur de nous-mêmes, je veux dire, un homme tue sa femme, qu'est-ce que ça veut dire du couple, qu'est-ce que ça veut dire de la lassitude, qu'est-ce que ça veut dire de la violence conjugale, une femme tue son amant, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense au contraire qu'il nous met complètement dans la vie. Moi, je pense pas du tout qu'il est extérieur. Je pense au contraire qu'il est, il est intime. Il a un écho intime en tout cas.
Alors, comment vous avez vécu la confrontation quand vous étiez dans le prétoire avec ce qu'on appelle les tueurs en série ? Parce que ça, c'est quand même une catégorie de tueurs différente, singulière.
Alors, je suis très peu qualifiée pour y répondre dans la mesure où j'ai longtemps refusé de suivre les procès des tueurs en série. Je n'en ai suivi qu'un seul, qui est Francis Holm, le dernier procès de Francis Holm. Et de la même manière, ça peut paraître paradoxal, mais je vais vous dire, j'ai un très très beau souvenir du procès de Francis Holm, qui est la sœur de Francis Holm. Voilà. Parce que j'ai découvert à cette occasion-là que les criminels en série pouvaient avoir des sœurs. Et que des sœurs qui aimaient leurs frères, comme toutes les sœurs aiment leurs frères. Et que cette sœur, qui est femme de chambre et qui élève ses trois enfants, travaille parfois le week-end en heures supplémentaires pour pouvoir payer le train qui va lui permettre d'aller au parloir voir son frère. Et que quand elle est venue et qu'elle a dit « T'inquiète pas Francis, on en sortira », etc. Et qu'elle est, après sa déposition, elle est partie en lui faisant un petit coucou de la main comme ça. Voilà. Pour moi, le procès de Francis Holm, c'est ça. Je ne me suis pas intéressée à Francis Holm. Les tueurs en série ne m'intéressent pas parce que je ne rentre pas. Je ne rentre pas, je n'arrive pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'identification. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, tiens, bah, lui aussi, c'est le fils préféré. Lui aussi, c'est la fille mal aimée. Lui aussi, il a un père qui fait ça, etc. Qui font qu'on se rapproche de Francis Holm, mais des autres, on ne se rapproche pas.
Ouais. Alors, la justice des hommes, la justice démocratique, l'esprit même de la justice, c'est la juridiction populaire. C'est-à-dire que c'est le peuple qui juge. On ne juge pas au nom du peuple, c'est le peuple qui juge. Alors le peuple, c'est deux choses. C'est d'abord les jurés, et parfois les braves gens sont très durs. très cruel. C'est la loi du talion, souvent. Et puis il y a le public qui est dans le prétoire. Alors vous appelez les lâcheurs. Et je vous lis hein, quelques lignes. La foule sait très bien ce qu'elle ferait si c'était son enfant à elle qu'on avait tué. L'instinct du lâcheur, ici, ne craint pas de s'exprimer à haute voix. Et si on lui dit qu'il faut attendre le verdict, que la justice est là pour faire jaillir une vérité d'un dossier pas forcément si clair que cela, la foule méchante voudrait qu'il arrive quelque chose à l'enfant de celui qui doute.
C'était le cas, c'est cette foule vraiment haineuse qui nous a beaucoup impressionné, Stéphane et moi, c'était au procès Fiona.
Alors, rappelez-nous le.
Alors, procès Fiona, c'est l'histoire de cette mère qui avait lancé un appel à l'aide devant les caméras de télévision. On est encore une fois, exactement comme dans l'affaire Jonathan Daval, dans le sentiment de trahison, de compassion trahie. C'est-à-dire qu'on a une mère qui, en fait, a fait disparaître son enfant, qui était une enfant frappée, manifestement frappée à mort, que le couple avait enterré. Il était mort au moment où elle en parle, il l'avait enterré. Et cette mère vient devant toutes les caméras de télévision et pleurer pour dire, aidez-moi à retrouver ma fille, etc. Et quand le procès s'est ouvert de ce couple, la haine des gens qui faisaient la queue devant, je n'avais jamais vu ça de ma vie, jamais. Je pense que la seule chose que j'avais lue et dont ça m'évoquait l'écho, c'était le procès de Patrick Henry.
Oui, j'allais vous le dire.
Tout ce qu'on lisait, tout ce qu'on a lu, tout ce que j'ai lu sur la foule haineuse. Et je crois que ça ressemblait vraiment à ça. C'est-à-dire que les gens faisaient la queue depuis 5h, 6h du matin devant le palais pour être sûrs d'être là. Quand les fourgons arrivaient, ils hurlaient contre cette femme et contre cet homme parce que c'était leur enfant. Ils s'étaient approprié cette gosse. C'était devenu un espèce d'ange et c'était la leur et contre ces méchants parents. Donc ça, c'est vraiment terrible. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de procès comme ça, enfin pas beaucoup, il y a quelques procès comme ça où la foule vient et il y a cette espèce de grondement dans la salle d'audience, d'ailleurs auquel les présidents souvent, enfin je veux dire, disent en permanence « si vous continuez, j'évacue la salle ». De grondement, de colère qui est terrible.
Est-ce que ça voudrait dire, très paradoxalement, mais en fait, mais logiquement aussi, que le tribunal serait presque une protection, un moment de protection?
Absolument. Mais c'est merveilleux. Regardez, là, je reviens à l'histoire de Jonathan Daval. L'avocat de la défense, maladroit, etc., a dit deux phrases sur la défense de son client. Ce qui est extraordinaire, c'est que demain, après-demain, dans 2 ans, dans 3 ans, au procès, la défense sera libre de tout dire. Et parce qu'elle pourra être contredite de manière organisée, dans un débat organisé. Mais les jurés, personne, aucun ministre ne pourra dire à cet avocat « Mais vous n'avez pas à dire ça ». Il sera libre de tout dire. Il sera libre de faire le portrait d'un mari qui peut-être était humilié par sa femme. Mmh. Donc c'est en ça que je dis que le procès est un lieu civilisé.
Bien, merci beaucoup Pascal Robert Diard. Je rappelle le titre de ce livre, Jour de crime, chez l'Iconoclaste, coécrit avec Stéphane Durand-Soufflant. Merci beaucoup, au revoir.
Merci.
C'était Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui 20 ans et 1 millième de seconde, une fiction écrite par François Luciani, réalisée par Michel Sidorov et Al Nioro, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Anne-Laure Cochet et Rémi Quincet.